Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
Bonjour, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Sagesse incivilisée, d'une amie féministe et écrivaine, autrice, peintresse, et qui aussi s'intéresse à plein d'autres sujets, notamment à l'archéologie, à l'écologie, voilà. Et donc elle a sorti un livre qui s'appelle Sagesse incivilisée, qui est sorti au Québec et pas encore en France, mais ça ne saurait tarder, je pense cet été. Et il me tarde de la faire venir pour qu'elle parle de ce livre. Alors en attendant, je vais juste voilà, vous donner envie de connaître ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Et ensuite, je vous lirai un de ses essais qui s'appelle « La tyrannie du genre ». Donc pour présenter Anna Minsky, après quelques années de vie nomade, Anna Minsky étudie l'archéologie, en particulier les outils en pierre de Néandertal. Depuis l'enfance, elle écrit des nouvelles, des contes et des poèmes, dont certains ont été publiés par différentes revues. Peintresse, depuis 2011, elle publie des articles sur l'écologie, le féminisme et la technocritique sur son site qui s'appelle Les Ruminantes. Donc je mettrai bien sûr le lien sur son site et vous y verrez énormément de ressources. Alors dans son livre « Sagesse incivilisée », Anna Minsky pointe du doigt les différents stigmates de la mise en place du système dominant-dominé sur lequel se construisent les civilisations et le rôle de la masculinité hégémonique dans cette construction. Elle analyse la place des femmes depuis les premières sociétés sédentaires basées sur des systèmes de production et montre comment l'histoire de la domestication animale et celle des femelles humaines ont fonctionné de concert. Les femmes ont longtemps été l'invisible de l'ethnologie, de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'histoire, de l'art. Tenues en laisse, muselées, confinées dans le cercle domestique, leurs corps ont été contrôlés, transformés, sélectionnés, leur imaginaire mis au service de la domination masculine. À la fois accusées de tous les maux et porteuses de tous les espoirs, de Pandore à la Pietà, de la maman à la putain, la femme est pour certains certaines l'avenir de l'humanité parce qu'elle est paix, amour, consolation. Pour d'autres, elle est seule responsable de sa chute parce qu'elle est tentatrice, séductrice, terrienne, trop terrienne. D'où viennent donc ces certitudes quant à la nature des mâles et des femelles chez l'être humain moderne, cette hiérarchie au sein d'une seule et même espèce? Cette violence oppressive pourrait-elle être l'une des causes de la destruction actuelle du vivant? pour tenter d'appréhender au mieux la naturalisation dont les femmes sont victimes. Anna Minsky confronte plusieurs récits mythiques aux données archéologiques, historiques, ethnologiques et éthologiques. Elle commence tout d'abord par définir le cadre culturel, la civilisation, des mythes qu'elle étudie. Elle analyse sous un angle féministe et biocentriste les structures matérielles et idéologiques des civilisations, plus particulièrement de la civilisation occidentale. Donc très beau titre, Sagesse incivilisée. Et voilà, donc si vous l'avez vu, c'est la relation entre le féminisme et l'écologie qui est fondamentale et passionnante. J'en parle très peu parce que je connais mal le sujet de l'écologie et pourtant je sais à quel point ces deux choses sont liées. Donc je vous encourage à aller donc sur son site Les Ruminantes parce que vous y verrez pas mal d'articles et ça vous donnera une idée du futur livre quand il va sortir et que je l'inviterai pour en parler. Voilà, alors je vous disais du coup le fil conducteur de mon émission, j'ai envie de commencer par un petit essai qui se trouve donc sur son site et qui s'appelle « La tyrannie du genre » puisque Anna Minsky est féministe radicale, donc critique du genre. Donc, je vous le lis, donc de Anna Minsky. « Je suis une petite dôme, née femelle, ce qui veut dire, dans notre société, sans pénis. Dès la naissance, on a pris soin de me le rappeler et de m'assigner un rôle. Une fille s'est bien élevée, timide et gentille. Ça ne dit pas de grossièreté, c'est calme et posé, une fille. » Mais je n'étais et ne suis rien de tout ça. Petite, j'arrachais la tête aux poupées. Je voulais voir l'intérieur, comment étaient leurs yeux, leurs bouches. Un jour, on m'en offrit une plus grande que moi et qui clignait des yeux tout le temps en répétant « Je t'aime, serre-moi fort contre toi ». Pourquoi souriait-elle? Ses yeux étaient pourtant si tristes. Elle eut aussitôt la tête arrachée. J'aimais courir, crier, tourner sur moi-même. J'aimais la boue, l'odeur de la terre sur mes vêtements. J'aimais être sale, les terrains vagues et les ronces. Mon père a toujours été l'enfant préféré de ma grand-mère, un petit coq chaperonné par sa grande sœur. Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il jeta son dévolu sur une simple femme de ménage. Certes, elle venait elle-même d'une famille de paysans, faisait des ménages, était l'épouse d'un ouvrier du BTP, mais elle avait des rêves de grande dame. Elle aurait tant voulu être une de ces grandes dames si bien parées, si bien éduquées, ces grandes dames qui savaient si bien se tenir et maîtrisaient si bien l'art de la flatterie. Ma grand-mère détestait ma mère, détestait toutes les femmes. Elle n'avait pas d'amis, elle n'avait que des patronnes. Et toutes celles qui n'étaient pas patronnes étaient des putains. Quand je désobéissais, ce qui était fréquent, elle me disait « Ta mère est une putain et tu finiras comme elle. Regarde-toi, tu ressembles à une gitane, tu es laide, personne ne t'aime, personne jamais ne t'aimera. On ne peut pas aimer quelqu'un comme toi. » Tous ont voulu me dresser à coups de ceinture, d'ordre et de poing. Un frère aîné. Jusqu'à ses 4 ans, les étrangers pensaient toujours qu'il était une fille. Un jour, il comprit. Je me souviens de ce jour-là. Nous étions au marché avec ma mère quand un maraîcher lui dit « Elles sont mignonnes, vos deux petites. » Mon frère s'est alors redressé et, fier comme un coq, a répondu « Je suis un garçon, j'ai un zizi, je peux vous le montrer. » C'est que c'est honteux d'être une fille, et nous le savions tous les deux. C'est peut-être pour cela que ma grand-mère, honteuse de ce qu'elle était, s'est forcée de faire de moi une vraie fille. Pour elle, une humaine digne de ce nom, se devait sans doute d'être une vraie fille, et la vraie fille devait être comme ces grandes dames qui se tenaient droites et fières et qui maîtrisaient l'art de la flatterie. Encore aujourd'hui, que ce soit pour m'insulter ou me flatter, cette affirmation « mais tu n'es pas une vraie fille » est l'argument suprême pour balayer mes critiques. Pour mon père, un garçon qui parlait avec une fille avait forcément une idée derrière la tête. Tous sont des violeurs, toutes sont des putains, sauf sa mère bien sûr. Cette insulte revenait toujours quand le maître du foyer, l'homme de la maison, celui qui possède les bijoux de famille, se mettait en colère. D'ailleurs, pour être sûr que je n'étais pas une putain, du moins pas encore, il eût fallu bien le vérifier par lui-même. C'est à ce moment-là que la guerre entre lui et moi a commencé. Quand il a voulu poser sa bouche sur la mienne et ses mains sur mon sexe, je l'ai mordu, griffé, frappé, j'ai utilisé les poings. Ma réputation était faite. J'étais une folle, une hystérique. Harceler ma mère ne lui suffisait pas. Il voulait posséder toutes les femmes, toutes les femelles. Pour m'éduquer, il m'obligea un jour, sous prétexte de s'assurer que je sortais le chien, à le retrouver dans un parking où stationnaient une dizaine de camping-cars. Quand les portes s'ouvraient, je voyais la femme, le lit et le mâle qui sortaient ou entraient. Sans discontinuer, les mâles entraient et sortaient, entraient et sortaient. Des hommes en voiture s'arrêtaient à ma hauteur pour me demander « C'est combien la pipe ?» Ni le chien, ni mes 12 ans ne les inquiétaient. Puis mon père, son affaire une fois conclue, arriva en voiture et klaxonna. Je suis alors montée dans la voiture avec le chien. Une colère noire dans le cœur. Aucune intimité n'était possible sous le toit du mâle paranoïaque qui devait régir son foyer. J'écrivais déjà, et bien sûr, il trouva mes écrits, en rit, et les partagea avec toute la famille. Ma mère et mon frère ne voulurent jamais me croire. Mon frère affirmait « Ma sœur est folle ». Je ne pouvais donc compter que sur moi-même pour me défendre. Tant de rage contenue quand des étrangers affirmaient que mon père était un homme si drôle, si intelligent, si serviable, si sympathique. À l'école, il y avait aussi ce maître si gentil, si doux, si calme. Quand nous passions devant sa porte à l'heure de la récré et que la porte était ouverte, toujours il y avait une petite fille assise sur ses genoux. Il la consolait, disait-il. Il en consola beaucoup avant que la direction de l'établissement ne puisse plus le protéger. Mon frère bénéficiait d'une liberté qu'on m'interdisait parce que j'étais une fille. Il ramenait des filles à la maison, dans sa chambre, les mettait dehors en pleine nuit, les partageait avec ses amis. Il n'y avait là rien de choquant, pas même pour ma mère. C'était même admirable, quelle virilité! C'était d'ailleurs si drôle quand il parlait des femmes comme des bouts de barbac dont le seul intérêt était leur trou. Enfin, mon frère n'avait pourtant rien du donjon violeur. Je ne me souviens plus quand il a changé, à quel âge. Il voulut un Rottweiler, une Benz, des vêtements de marque. Il se mit à rouler des mécaniques, à nous parler à ma mère et à moi comme si nous étions ses domestiques. Des corps sans âme, sans vie intérieure. Il y a peu, mon frère, peut-être parce qu'aujourd'hui il est père, m'a confié qu'à l'âge de 13 ans, un mâle plus âgé l'avait violenté. Y a-t-il un lien entre son besoin d'afficher un virilisme si caricatural et violent et le traumatisme subi ? Je ne suis pas une vraie fille et ne le serai jamais, mais je suis femme, femelle, née dans une société patriarcale qui s'est chargée de m'apprendre ce qu'était un homme, un vrai, le prédateur qui abuse et ne peut exister qu'en avilissant le corps de la femelle et de tout être humain efféminé. Tu seras un pénis en érection et rien d'autre. Tu seras un trou au service du mâle, ce maître du monde qui veut tout empaler. Pour être pleinement accepté par ceux de ton espèce, il te faudra subir le dressage des institutions, accepter ces stéréotypes, les défendre et les perpétuer. Oublier, nier tout ce que tu portes en toi, toute la richesse d'un corps qui accepte les altérités, qui accepte l'autre dans son individualité totale, étrange, mystérieuse et puissante. Nous devons nous battre pour que nos identités ne soient pas réduites à un genre masculin ou féminin. Si je suis composée de tous ces êtres meurtris qui ont voulu me façonner, hantée par une société qui réduit toute la subjectivité d'un individu à des stéréotypes de genre, je suis aussi et surtout une combinaison d'êtres et de choses, parfois dissonantes, parfois déhiscentes. C'est peut-être pour cela que je crois, encore et malgré tout, que le rêve est une langue sauvage avec laquelle nous devons et pouvons renouer. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous devons lutter et nommer cette domination, ce dressage, cette torture que la société patriarcale impose à ses enfants. Et pour cela, nous devons comprendre que sous la domination masculine, la femme est un corps femelle qu'un corps mâle chasse. Elle est le gibier du mâle, cet homme construit socialement et qui n'a pas eu le pouvoir, la force, le désir, les moyens de se libérer du carcan de la masculinité inculquée dès la naissance. On ne naît pas femme, on le devient. Célèbre phrase de Simone de Beauvoir. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que ce mot « femme » ? Dans notre société, une femme est à la fois une femelle adulte avec des attributs physiques spécifiques, utérus principalement en vue de la reproduction sexuée, et une femelle humaine assignée à une identité construite socialement, le genre féminin. L'être femelle comme l'être mâle sont le fruit de l'évolution qui a créé la reproduction sexuée. L'humain est un mammifère qui ne peut se reproduire sans des gamètes mâles et des gamètes femelles, soit les ovocytes et les spermatozoïdes. Ceci est un fait biologique, fruit de milliers d'années d'évolution terrestre. Reconnaître ce fait ne signifie pas que la femelle soit réduite à son rôle de reproductrice, ni le mâle à son rôle de reproducteur. Ce n'est pas l'utérus, ni les seins, ni le pénis, ni les testicules, ni les hormones qui réduisent un être humain, mâle ou femelle, à un rôle de géniteur ou de génitrice, mais le genre. Le genre est une construction sociale qui norme les comportements selon le sexe biologique. Genre féminin pour la femelle et genre masculin pour le mâle. Une femelle, si elle veut être considérée comme une vraie femme, doit être féminine. Et un homme, s'il veut être considéré comme un vrai homme, doit être masculin. Le féminin et le masculin sont donc des stéréotypes, des normes de comportement pour chacun des deux sexes biologiques. Exemple, la femme porte des jupes et l'homme des pantalons, la femme est douce et l'homme est fort, la femme minaude et l'homme conquiert, la femme est infirmière et l'homme est militaire, la femme obéit et l'homme commande. Dans une société fondée sur la domination masculine, c'est le mâle acceptant les stéréotypes du genre masculin qui est l'étalon de mesure pour toute l'humanité. Et pour maintenir et perpétuer le pouvoir du masculin sur le féminin, les qualités du féminin doivent être l'exact opposé de celles du masculin. C'est ainsi que le mâle, pour être un vrai homme, doit être viril et dominer la femme qui, elle, si elle veut être une vraie femme, doit être soumise au mâle, au vrai mec. Les deux genres, féminin et masculin, imposés par la société patriarcale, se construisent en s'opposant l'un l'autre. Sous prétexte de complémentarité, du maintien de l'ordre patriarcal, l'homme doit être un vrai mec, la femme une vraie femme, et le mec doit baiser la femme, parce que l'hétérosexualité est l'injonction de la société patriarcale. Dans ce type de société, l'homme existe publiquement et socialement, la femme existe biologiquement. C'est-à-dire que le corps de la femme est mis à disposition de l'homme en vue de la reproduction, des soins du corps et de la satisfaction des besoins sexuels de l'homme. Mariage, prostitution, pornographie. Ne pas distinguer sexe biologique, femelle, femme, et genre, féminité, participe à maintenir un essentialisme des humains, essentialisme des deux sexes, permettant à la domination masculine de se maintenir depuis de nombreux siècles. Ce que doit être un homme socialement, un vrai mâle, un masculiniste, viril, fort, dominant, et une femme socialement, porter et nourrir les enfants du mâle, prendre soin du mâle et de sa progéniture, ne correspond pas à la diversité subjective des êtres humains, et réduit notre identité à une fonction sociale reproductrice. C'est ainsi que la famille patriarcale a longtemps défendu sa cause en affirmant que c'est pour protéger femmes et enfants que le mâle porte les armes et conquiert le monde. Nous savons que tout ceci est faux. Une femelle humaine est tout aussi capable de commander, de chasser, de tuer, de torturer qu'un mâle humain. S'il est exact que les violeurs, les abuseurs, les pédophiles, les proxénètes et les clients sont dans 95% des cas des hommes, ce n'est pas le fait d'une hormone, d'un pénis, de testicules, mais le fait d'une construction sociale qui réduit l'homme à un pénis qui bande. Je suis un mec, un vrai mec. Je ne pleure jamais, je sais bander, je sais soumettre, je sais violer, torturée et tuée. Je n'ai pas la sensibilité d'une femmelette. Dès notre naissance, tout notre entourage participe à faire de nous de vrais mâles, hommes masculins, et de vraies femelles, femmes féminines. Dans une société où règne la domination masculine, ces trois substantifs sont interchangeables. Les féministes radicales distinguent le sexe biologique, qui ne concerne que la reproduction sexuée, et le genre, qui norme les comportements masculins et féminins. C'est ainsi qu'une femme naît femelle, mais est éduquée en vue de devenir socialement féminine. Certaines féministes distinguent fémélité et féminité. La fémélité étant liée à tout ce qui concerne la biologie d'une femme, être enceinte, cycle menstruel, ménopause. Prendre en compte la fémélité est un moyen d'appréhender la socialisation de la femme en tant que femelle humaine adulte. C'est-à-dire que les spécificités du corps femelle doivent être prises en compte par la société qui est construite à ce jour sur les spécificités du corps masculin, médecine, droit du travail, etc. Prendre en compte ces critères spécifiques participerait à la reconnaissance sociale du sexe femelle et n'est en rien un essentialisme, puisque la biologie ne définit pas la psychologie, le caractère ou les capacités physiques des femmes. Au contraire de la féminité, dont les critères ont été définis par la société patriarcale. Aujourd'hui, entre mâles et femelles, aujourd'hui encore, mâles et femelles sont soumis à la tyrannie du genre. Il n'y a pas longtemps, une amie me parlait de la maternelle où sa fille de 3 ans passait 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Dans cette maternelle, il y a des porte-manteaux bleus pour les garçons, roses pour les filles. Parce que les adultes affirment qu'il est important que les enfants s'identifient à un sexe genre le plus tôt possible. Nous sommes en 2019 et c'est comme ça dans de nombreuses écoles françaises où sont reproduits et imposés les stéréotypes de genre, obligeant l'individu à se reconnaître dans un genre féminin ou masculin pour bénéficier d'une identité sociale, d'une existence dans la société. L'école et toutes les institutions sont patriarcales. Elles soumettent les femmes à l'injonction de correspondre à leur genre. Elles se doivent d'être féminines et les garçons se doivent d'être masculins. Cela commence dès les couches culottes, se poursuit dans la cour d'école, dans l'espace public conjugal, dans les loisirs, etc. La violence conjugale et familiale est le lieu de cette cristallisation qui s'exprime dans la sphère publique par la culture du viol et la marchandisation sexuelle du corps. Tout cela participe au maintien de cet enfermement identitaire. Tu seras mâle et ou femelle et rien que cela. Les enfants témoins de la violence conjugale, victimes de violences et ou d'abus sexuels sont nombreux. Cette violence est institutionnelle, elle se transmet socialement, de père en fils, de père en fille, de mère en fille, de mère en fils. L'enfant qui grandit dans une société patriarcale est livré à des violences inouïes qui génèrent de multiples traumatismes. Et chaque enfant se protège de ses traumatismes selon sa subjectivité propre. Alors elle cite Alice Miller dans un livre qui s'appelle « C'est pour ton bien ». Il n'a pas le droit d'exprimer ses frustrations. Il doit réprimer ou nier ses réactions affectives qui s'amassent en lui jusqu'à l'âge adulte pour trouver alors une forme d'exutoire déjà différente. Ces formes d'exutoire vont de la persécution de ses propres enfants par l'intermédiaire de l'éducation jusqu'à la toxicomanie, à la criminalité et au suicide, en passant par tous les degrés des troubles psychiques. Nous avons tous été ces enfants, nous sommes ces enfants. Il n'y a pas de rupture entre ce que nous avons été et ce que nous sommes. Malheureusement, tant que nous n'aurons pas vomi toutes les saletés qu'on nous a enseignées sur nous-mêmes, nous reproduirons les comportements patriarcaux. L'hostilité des femmes entre elles, l'hostilité des hétérosexuels envers les homosexuels, l'hostilité des hommes envers les femmes, des hommes envers d'autres hommes. L'éducation ne cesse de vouloir nous assigner des stéréotypes selon le sexe biologique, et ce, dès la naissance. C'est ainsi que lorsqu'un enfant naît avec des attributs sexuels qui ne correspondent pas aux normes médicales établies par la société, un chirurgien se charge de le réassigner. Chacun d'entre nous doit entrer dans une des deux catégories, le féminin ou le masculin, pour avoir une place dans la société, pour être reconnu par les membres de sa propre espèce. Ce que doit être un homme socialement, un vrai mâle, un masculiniste, viril, fort, dominant. C'est pour se libérer de ce carcan que les féministes radicales critiquent l'identité de genre et dénoncent le genre qui divise l'humanité en deux et essentialise les individus. Mâle, homme, masculin et femelle, femme, féminine. Certains pensent que la multiplication des genres pourrait changer, briser la domination masculine. Mais il n'en est rien, parce que ce qui fonde la domination masculine, c'est le mâle, le porteur d'un pénis qui bande. Et tous les autres genres, tant que la masculinité n'est pas démantelée, lui seront toujours inférieurs. Ils seront considérés par le masculiniste comme des êtres efféminés. D'autres pensent qu'il suffit de ne plus parler de reproduction pour que les problèmes disparaissent, la fameuse politique de l'autruche. Nier le fait qu'il faut un gamète mâle et un gamète femelle, donc un corps mâle et un corps femelle, ne fera qu'invisibiliser le gibier de tous les fascistes et du capitalisme qui sont obsédés par le contrôle du ventre de la femme, le contrôle de sa sexualité et de sa fécondité, en les maintenant dans une dépendance financière ou en les maintenant dans la pauvreté. Alors, Anna Minsky cite Clément Aubrin dans un livre qui s'appelle « Il y a de plus en plus de femmes SDF en France et c'est catastrophique ». En France, les femmes sans-abri sont violentées, méprisées ou tout simplement ignorées. On passe à côté sans les regarder et pourtant elles représentent pas moins de 38% des personnes sans domicile fixe. Et parmi elles, l'on dénombre un taux tout aussi conséquent de mères sans-abri. Augmentation du nombre de naissances de bébés dans la rue, hôpitaux débordés, isolement des mamans qui dorment dehors, danger de mort indéniable pour l'enfant. C'est ainsi que le transhumanisme s'inscrit dans la continuité du capitalisme et de tous les fascismes. Nier les mammifères que nous sommes, privilégier l'idée que nous nous faisons de notre corps plutôt que la réalité physique de ce corps, corps qui nous est pourtant propre et unique et qui seul nous permet d'établir de vrais rapports au monde, à la terre, à la matière, à l'altérité. Le transhumanisme est un projet de contrôle des naissances en créant des utérus artificiels pour, à terme, faire disparaître le corps de la femme dans son existence physique même. Certaines femmes, engluées dans l'idéologie phallocratique, vont jusqu'à affirmer que le problème n'est pas le système patriarcal, mais l'utérus. René Friedman, l'obstétricien ayant permis la naissance du premier bébé éprouvette français, ainsi que celle des premiers bébés français à partir d'ovocytes congelés, pense effectivement que cela permettrait de mettre fin à l'assujettissement des femmes à la nature, entre guillemets. Devons-nous le remercier de nous libérer enfin du poids de notre utérus, nous toujours trop proches de la nature? Cette nature si dangereuse qu'elle a eu le malheur d'engendrer des sapiens au milieu de primates. Quelle est donc cette idéologie qui définit le corps de la femme à un assujettissement à la nature, sinon une idéologie patriarcale qui nous embrigade bien avant notre naissance par tout un protocole obstétrical qui considère la naissance comme une maladie. Cette appropriation du corps de la femme passe par la stérilisation forcée chez les indigènes, par une natalité encouragée ou forcée selon les conditions économiques et politiques chez les femmes blanches, par une exploitation des ovocytes dans les pays du Nord économique et une exploitation des ventres dans les pays du Sud économique. Donc là, je fais une parenthèse, elle parle de la GPA, gestation pour autrui. Le maintien dans la pauvreté oblige les femmes à accepter la domination masculine. Et comme pour toute victime d'un système oppresseur, les femmes se créent des barrières de protection pour supporter la violence subie ou la nier. C'est ainsi que des femmes ont retourné le stigmate de la putain pour retrouver une fierté. Pourtant, la prostitution et la pornographie ne sont pas des métiers. Comme le dit Chrysélidis Réal, prostituée, peintre, autrice et activiste. Donc c'est une citation de Chrysélidis Réal. J'étais dans une situation financière épouvantable. Tous les horizons étaient bouchés. J'avais pas de papier, pas de travail, pas de permis de travail. Mes gosses et moi, on n'était même pas déclarés à la police. Donc il fallait survivre. Des hommes venaient coucher avec moi en me payant. Évidemment, je m'apercevais quand même que c'était pas l'amour qui les poussait. C'était la satisfaction sexuelle, la levée de leur propre frustration. Il y a souvent des clients qui viennent se venger de toutes les frustrations que leur grand-mère, que leur mère, que la société entière leur ont infligées. Ils viennent se venger sur une putain et ça leur fait du bien. Et la putain doit comprendre ça. Elle doit comprendre, mais elle doit pas se laisser étrangler, par exemple. Faut avoir suffisamment de diplomatie pour comprendre qu'il y a des tourments dangereux et qu'il faut calmer l'homme, qu'il reparte content ou bien furieux, mais enfin qu'il reparte sans avoir tué la femme. Parce qu'il y a des types qui iraient facilement jusqu'à tuer. Moi, je sais que je me suis battue pour sauver ma peau. La symétrie des genres est tellement ancrée dans nos corps dès la petite enfance que Nell Dorf, autrice belge qui a écrit « Jour de famine et de détresse » au début du XXe siècle, écrit « La simplicité avec laquelle mes parents s'adaptaient à cette situation me les faisait prendre en une aversion qui croissait chaque jour. Ils en étaient arrivés à oublier que moi, la plus jolie de la nichée, je me prostituais tous les soirs aux passants. Sans doute, il n'y avait d'autre moyen pour nous de ne pas mourir de faim. Mais je me refusais à admettre que ce moyen fût accepté sans la révolte et les imprécations qui, nuit et jour, me secouaient. J'étais trop jeune pour comprendre que chez eux, la misère avait achevé son œuvre, tandis que j'avais toute ma jeunesse et toute ma vigueur pour me cabrer devant le sort. L'appropriation du corps de la femme permet au patriarcat de perdurer et de maintenir l'humanité entière sous son joug. Le mariage, la prostitution et la pornographie sont le continuum de l'échange économico-marchand dans la société patriarcale. La femme comme corps marchandise au service de l'homme. Donc ça, c'est Paula Tabé, La Grande Arnaque, sexualité des femmes et échange économico-sexuel. Donc, je vais faire une pause musicale après cette longue lecture. Voilà. La révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc, je vais reprendre en enchaînant après le texte donc, de Anna Minsky donc, sur la tyrannie du genre. Nous, féministes radicales, sommes critiques du genre, qui est une construction sociale. Et les droits des femmes sont fondés sur le sexe. Donc Anna Minsky a parlé un peu du transhumanisme et de cette idéologie transgenriste. Donc je vais vous lire une publication d'un ensemble d'associations qui défendent les droits des femmes fondés sur le sexe, WHRC, qui a publié récemment un texte qui s'appelle « Les droits des trans contre les droits des femmes ?» Point d'interrogation. Dans le domaine des droits humains, l'une des revendications actuellement les plus fortes sur le plan international, celle qui suscite le plus de nouveaux textes de loi, de nouvelles conventions internationales, est le droit au changement de sexe. Dans beaucoup de cas, on perçoit une évolution des priorités. Les droits des personnes trans passant au premier plan, devant les droits des homosexuels et devant les droits des femmes. Le féminisme lui-même se voit invalidé. Il doit laisser place au transféminisme. Ainsi, le défenseur des droits en France, dans les 10 recommandations pour faire valoir les droits des personnes transgenres de juin 2020, recommande ainsi au ministère de la Justice de mettre en place des procédures de changement de prénom et de mention du sexe qui soient déclaratives, accessibles et rapides. Il s'appuie pour cela sur la Cour européenne des droits de l'homme. À plusieurs reprises, la CEDH a indiqué aux États membres du Conseil de l'Europe la nécessité de ne pas mettre en cause la liberté pour le requérant de définir son appartenance sexuelle, liberté qui s'analyse comme l'un des éléments les plus essentiels du droit à l'autodétermination. Il s'agit de la requête du 10 mars 2015. Pourtant, ce dualisme est contesté déjà depuis 200 ans. L'existence des personnes trans repose sur la confusion entre le sexe biologique et le genre, on vient de le voir, construction sociale, et sur la fausse promesse de pouvoir changer de sexe à tout âge de la vie par une série de traitements hormonaux ou chirurgicaux. L'idée qu'il est possible de passer d'un sexe à l'autre repose sur une vision dualiste de l'être humain, déjà développée dans la théologie chrétienne du Moyen-Âge. Selon cette théologie, nous aurions une âme capable d'élan mystique, de prière, de pensée, et d'autre part un corps captif de ses instincts et accessible à la matérialité des sensations. Cette pensée dualiste corps-âme a été dépassée depuis le XIXe siècle par la pensée positiviste et depuis le XXe siècle par l'existentialisme et le personnalisme. Nous ne sommes pas d'une part un pur esprit et d'autre part un corps, tel une enveloppe charnelle, mais nous sommes des personnes, corps et esprit, ne font qu'un. Les partisans et partisans du changement de sexe reviennent sur ces acquis qui ont permis les avancées scientifiques des deux derniers siècles et l'éclosion des sciences humaines. Elles et ils persistent dans un dualisme de l'esprit et du corps, qui ont chacun un sexe. Si le sexe psychique de l'esprit, pour eux, coïncide avec celui matériel du corps, la personne est, entre guillemets, cis. Si le sexe du corps ne correspond pas au sexe de l'esprit, alors la personne est trans. Et il faut changer le sexe du corps, ou ne pas le changer, mais exiger de jouir des droits inhérents à l'autre sexe, puisque c'est à l'autre sexe qu'on appartient psychiquement. Le sexe biologique ne leur paraît pas une catégorie valable, il est interchangeable. Le sexe biologique disparaît donc comme base de revendication de lutte contre les discriminations sexistes. Il disparaît aussi comme source de revendication de prise en charge médicale et sociale des filles et des femmes. En effet, pour les idéologues du changement de sexe, les hommes qui se sentent femmes peuvent s'approprier ces revendications et ces droits. Dans le domaine du sport féminin de compétition, presque aucune athlète ne peut être sûre de ne concourir que contre d'autres femmes. De nombreuses fédérations sportives acceptent que des hommes se sentant femmes soient admis aux compétitions féminines. Les femmes se voient donc voler leurs performances par des hommes, alors que la séparation des sexes dans la plupart des sports repose sur les différences anatomiques et physiologiques bien réelles entre les sexes. Bien entendu, très peu de femmes sportives souhaitent concourir avec des hommes. Donc là, je fais une parenthèse. Vous avez dû entendre parler de Lia Thomas, donc un homme qui s'auto-identifie femme, qui a 22 ans et qui voilà, s'est mis à concourir donc, dans les compétitions de nage féminine et qui, du coup, a pulvérisé effectivement tous les records. Voilà, il a été autorisé donc, à concourir. Et ça, ce qui fait que ben, la compétition pour les femmes n'a plus aucun sens. Il a été accepté parce qu'on a mesuré son taux de testostérone qui était assez bas pour que voilà, on puisse accepter qu'il concourt en tant que femme. Cependant, on n'a pas tenu compte effectivement du fait évident que ça ne suffit pas le taux de testostérone et que son corps est masculin et donc n'a rien à voir avec le corps d'une femme. Alors je poursuis. La protection de l'enfance en échec. Alors ça c'est très important. De plus, la matérialité biologique du sexe de chaque enfant est niée. Le sexe ne serait pas constaté à la naissance et même in utero grâce à l'imagerie médicale, mais selon ces idéologies transgenres, ce sexe serait assigné à chaque enfant, à sa naissance, par ses parents et le corps médical. Si l'enfant en grandissant se sent du sexe opposé, les parents et avec eux l'école et toute la société seront accusés par les partisanes et partisans du libre choix du sexe de le mégenrer, par exemple en lui donnant un prénom de fille parce qu'elle a un sexe de fille alors qu'elle se sent garçon. Des enfants sont ainsi incités à changer le sexe de leur corps pour faire coïncider le sexe de leur corps avec le sexe de leur esprit. Le fait que le sexe de l'esprit soit une pure représentation culturelle, une cristallisation de stéréotypes sexuels et souvent sexistes, voire une souffrance psychique due à l'hypersexualisation de l'enfance et de l'adolescence, est éludé. Au contraire, les enfants sont enjoints à croire qu'elles et ils sont nés dans les mauvais corps sur la base de goûts, de jeux et d'activités non conformes à leur sexe. Entre le corps et l'esprit que cette idéologie sépare, c'est le corps qui a tort et l'esprit qui indique le véritable sexe de la personne. La dysphorie de genre, un trouble rare et passager du développement psychique de l'enfant et de l'adolescente, qui disparaît facilement à l'âge adulte, ne devrait en aucun cas entraîner un traitement médical, hormonal et chirurgical. C'est pourtant ce que promeuvent les transactivistes, très présents sur Internet, en particulier dans les réseaux fréquentés par les enfants et les jeunes, comme TikTok et Instagram. Au contraire, ce trouble psychique devrait être soigné en psychothérapie et l'adolescente ou l'adolescent qui en souffre soutenu dans ses libertés de choix, surtout s'ils ne sont pas conformes à son sexe. Le changement de sexe est abondamment promu sur les réseaux sociaux et même dans les établissements scolaires par l'intermédiaire des interventions faites par des associations soi-disant contrôlées par le ministère de l'Éducation nationale au titre de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Nombre de ces associations, en particulier certaines fédérations du planning familial, professent qu'on peut choisir son sexe et changer physiquement son corps sans aucun danger. Des enfants prennent donc souvent, avec ou sans contrôle médical, des bloqueurs de puberté avant l'apparition des signes sexuels secondaires pour éviter de se retrouver avec un corps adolescent sexué dont elles ou ils ne veulent pas. Les traitements peuvent les rendre stériles, sont irréversibles et entretiennent le malaise psychique des jeunes plutôt que d'y remédier. Ces jeunes trans restent dépendants à vie de ces traitements. Pour tous les enfants, l'hypersexualisation de l'enfance, de la société et de la culture est une barrière au développement. Ils se séparent dès le plus jeune âge entre filles et garçons avec des jouets sexués qui limitent leur imaginaire, des activités et des vêtements distincts qui les enferment dans des stéréotypes sexuels nuisibles à leur développement. La moindre tentative de dépassement de ces stéréotypes est interprétée par les idéologues du changement de sexe comme une dysphorie de genre, alors qu'elle n'est que le signe sain d'un désir de libération de l'hypersexualisation. Beaucoup de parents se laissent alors convaincre que leur enfant est né dans le mauvais corps, qu'il a un sexe psychique différent de son sexe corporel. S'ils ne l'acceptent pas, s'ils refusent un traitement hormonal à leur enfant, ils peuvent être accusés de maltraitance, selon une loi qui a été votée récemment en Espagne. L'injonction à changer de sexe repose sur l'homophobie ou l'hypersexualisation, dans les familles de milieux très conservateurs, en particulier évangéliques américains, avoir un fils gay ou une fille lesbienne est considéré comme une telle honte qu'elles préfèrent que leurs enfants changent de sexe plutôt que d'aimer une personne du même sexe. Si l'adolescente ou l'adolescent est homosexuel, les conservateurs homophobes veulent la ou le soumettre à une thérapie de conversion comprenant, entre autres, un traitement hormonal. Les transactivistes et la plupart des progressistes considèrent ces thérapies de conversion comme de graves atteintes aux libertés individuelles. En revanche, si une personne désire changer de sexe, ce sera considéré comme progressiste et émancipateur, même si pour changer de sexe, elle ou il est soumis à un traitement hormonal. Dans un cas, ces traitements hormonaux sont considérés comme rétrogrades et liberticides, dans l'autre cas, comme progressistes et émancipateurs. Les objectifs cachés de certains trans. Certains hommes qui fantasment sur la facilité d'accéder au corps des femmes changent de sexe pour assouvir leur désir de domination sur les femmes par le mensonge en se faisant passer pour des lesbiennes. Ils ne souffrent pas de dysphorie de genre, mais d'un ego surdimensionné et d'un conditionnement patriarcal à la toute-puissance qui les empêche de supporter leur faible succès auprès des femmes en tant qu'hommes hétérosexuels. Lorsque des lesbiennes les démasquent et refusent d'entrer en relation avec eux, ils les accusent de transphobie et les agressent. D'autre part, des hommes gays et issus d'un milieu homophobe se font passer pour des femmes hétérosexuelles pour avoir des relations avec d'autres hommes sans s'afficher comme gays. Les idéologues promoteurs du libre choix de son sexe ne se contentent pas de modifications individuelles de leur corps. La plupart des hommes soi-disant devenus femmes ne sont d'ailleurs pas opérés et se contentent d'adopter les signes extérieurs de la féminité. Ce faisant, ils renforcent les stéréotypes sexuels contre lesquels les féministes se battent depuis des générations et propagent une priorisation de leur ressenti d'homme sur les droits des femmes, les espaces des femmes, les sexualités des femmes. L'activisme pour les droits des trans est bel et bien devenu le fer de lance de la lutte misogyne contre les droits et les libertés des femmes. Nous, féministes, soutenons J.K. Rowling contre le lynchage des activistes trans. Voilà, donc le WHRC aussi, ce sont des réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe biologique. Donc il y a une déclaration que vous pouvez retrouver, je vais la mettre en lien. Vous pouvez la signer, donc c'est une déclaration qui réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe biologique et qui sont présentés dans la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes qui avait été adoptée, il faut s'en rappeler, par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, la CEDEP, la CEDO sont des conventions très importantes. Et aussi, entre autres, dans la déclaration sur l'élimination des violences faites aux femmes des Nations Unies en 1993. Mais ces déclarations maintenant ont été transformées avec les modifications récentes qui ont substitué les références à la catégorie de sexe qui sont biologiques par le terme de genre qui se réfère donc aux stéréotypes des rôles sexués. Donc tout ça a été changé dans les documents et les stratégies et les actions des Nations Unies ont conduit à une confusion qui risque bien, comme je viens de vous l'expliquer là avec cette publication, de porter atteinte à la protection des droits des femmes. Voilà, donc je vais, du coup, comme on a parlé du danger sur les enfants, je vais aussi relayer cette publication d'une association de parents qui s'appelle Hypomonie France. Nos enfants sont en danger. Donc ils s'adressent aux parents, médecins, enseignants, pharmaciens, citoyennes et citoyens concernés par la santé de nos enfants. T'es pas bien dans tes baskets, t'es peut-être né dans le mauvais corps. De plus en plus de jeunes, en proie aux troubles inhérents à l'adolescence, influencés par le mimétisme ambiant, victimes d'une emprise sectaire ou sous l'influence des réseaux sociaux, demandent à changer de sexe. De genre. Les requêtes explosent en France et touchent en majorité les filles. Avec quelles précautions et à quel âge a-t-on le droit de mutiler un corps sain ? Aucune loi n'encadre ces pratiques, aucune précaution ne permet de s'assurer du bien fondé de la demande de transition. Dans un communiqué daté du 28 février 2022, pourtant l'Académie nationale de médecine recommande une grande prudence médicale chez l'enfant et l'adolescent compte tenu de la vulnérabilité, en particulier psychologique, de cette population d'enfants et d'adolescents, et des nombreux effets indésirables, voire des complications graves que peuvent provoquer certaines des thérapeutiques disponibles aujourd'hui. Changer de sexe aujourd'hui à l'état civil en France est une formalité. Changer d'apparence physique est un acte définitif et facile à réaliser. Sans délai de réflexion obligatoire, sans psychothérapie exigée, sans consentement éclairé, sans information imposée sur les effets des médicaments pris à vie. Les professionnels de santé font aujourd'hui face à un afflux de patients qui s'auto-diagnostiquent transgenres. Au mépris de toute déontologie, certains médecins établissent au premier rendez-vous des ordonnances pour de la testostérone, des estrogènes et ou une chirurgie, avec l'ablation des seins ou des testicules. Nous, collectifs de parents concernés, en avons la preuve. Ces traitements sont irréversibles. Ces traitements sont pris en charge comme une affection longue durée, ALD, au même titre qu'un cancer ou une sclérose en plaques. Ils sont remboursés à 100% par la Sécurité sociale. Il est donc urgent de réglementer dans le domaine médical, éthique et juridique pour éviter que demain, un scandale sanitaire ne vise les professionnels de santé impliqués dans la prescription d'actes irréversibles et ou de mutilations, pour proscrire les dérives lucratives des laboratoires, pour empêcher la multiplication des détransitions dont les récits dramatiques abondent sur les réseaux sociaux. À l'image des précautions prises par la Suède, la Finlande, la Grande-Bretagne ou l'Australie, en écho aux recommandations de l'Académie nationale de médecine, le collectif Hypomonie souhaite que les transitions de genre en France soient réglementées et donc demande premièrement de prioriser et obliger une approche psychologique, car le malaise psychique dans un genre ne se résout pas toujours par le passage à l'autre genre. Deuxièmement, de permettre les transitions de genre après évaluation scientifique pluridisciplinaire d'un délai minimum de 2 ans. Et troisièmement, d'autoriser les transitions médicales uniquement dans le cadre d'un protocole de recherche hospitalier. Voilà, donc du coup, sur le sujet, je vais vous passer un audio d'une femme qui est pédopsychiatre et qui est aussi... Attendez, je retrouve exactement ce qu'elle est. Voilà, gynécologue et endocrinologue. Donc en fait, je vais vous faire passer ce petit extrait de son donc, où elle s'exprime. Je mettrai les références aussi. Donc, c'est un audio que j'ai récupéré aussi par rapport à des conférences dont je vous ai parlé, WHRC, qui organise de temps en temps le dimanche voilà, des conférences sur ces sujets. Donc, il s'agit donc de Nicole Antea. Je vous passe juste un tout petit extrait où en fait donc elle exerce en France et elle expliquait avant, donc dans l'extrait d'avant que je ne vais pas vous passer, je vais vous résumer, elle expliquait qu'autrefois les transitions, il y avait besoin, que maintenant ça a changé en fait, que depuis 2015 il n'y a plus de psychiatre pour changer de genre. Depuis 2015 par l'OMS, que l'incongruence de genre est passée en santé sexuelle. Elle passe en santé sexuelle avant il y avait 2 ans d'attente, voilà, c'est ça. Mais maintenant, aujourd'hui, donc il n'y a plus besoin de psy. La détermination est subjective, elle est auto-référencée et il suffit du coup de demander, pour demander une médicalisation, de passer par un endocrinologue qui du coup endosse la responsabilité du psy, puisque le psy n'est plus consulté. Donc elle explique que le traitement de changement hormonal, de genre, etc. ne résout pas forcément du tout le malaise psychique de l'enfant, au contraire, et que de nombreux patients sont déçus, et voilà, qui ça ne résout pas non plus des fois ou alors leur grand malaise psychique si c'était des enfants qui avaient des envies de suicide. Parce qu'on prétend que voilà, s'ils ne transitionnent pas, on fait peur aux parents en leur disant « Oui, mais alors votre enfant va se suicider ». Mais en fait, elle explique que pas du tout. Voilà. Bon, voilà, le plus simple, c'est que je vous fasse écouter un peu ce qu'elle dit et je reviens après. Donc, je vous laisse écouter Nicole. Je vérifie la technique, que ça marche bien. Voilà. Nicole Antea.
D'accord, alors c'est très instructif. Donc ces adolescents ou ces jeunes adultes, ils sont donc mis sous hormones. C'est la Somatisation, c'est ça, c'est le traitement hormonal.
La médicalisation, c'est ça. Voilà. Alors,
quelles hormones, à qui, et qu'est-ce qu'elles ont comme effet secondaire et qu'est-ce qu'elles ont comme effet tout court, d'ailleurs.
Alors, en fait, il y a plusieurs réponses, parce que si je prends les hormones que moi j'ai délivrées après 18 ans, je n'ai délivré que des hormones inversées, des hormones sexuelles inversées, c'est-à-dire des androgènes pour les femmes, et pour les hommes, des estrogènes avec éventuellement ce qu'on appelle des anti-androgènes. Mais dans la population adolescente, la population jeune, celle à qui on va bloquer la puberté, on va utiliser d'autres médicaments qui s'appellent des bloqueurs de puberté. Et ces bloqueurs de puberté, alors on les administre de deux façons à l'âge pédiatrique. Soit un jeune ou une jeune arrive en tout début de puberté, ce qu'on appelle stade de Tanner 1 ou 2, c'est-à-dire chez la fille, le petit bourgeon mammaire, chez le garçon, un testicule qui augmente un peu de volume. Il faut comprendre que la puberté, ce n'est pas au même âge pour tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des filles qui vont avoir précocement des débuts pubertaires à 8 ans, 9 ans, des garçons à 9 ans. Donc, on peut, chez des jeunes très jeunes, commencer des traitements dès 8-9 ans par blocage pubertaire. Et ces jeunes-là, ils vont être traités entre 8-9 ans et 15 ans par bloqueur de puberté, qui sont des médicaments qui ont des actions très délétères sur l'os et sur d'autres éléments. Donc, véritablement, là, il y a un problème majeur, hein, un problème majeur que représentent ces traitements-là. Et la deuxième façon d'utiliser des bloqueurs de puberté, c'est qu'un certain nombre de jeunes ne vont pas arriver en début de puberté. Ils vont commencer, ou ils auront déjà achevé leur puberté. Ils vont arriver à 12-13 ans. Et on les met en traitement d'attente, sous traitement bloqueur inversé, de 12-13 ans à 15 ans, 16 ans, pareil que les autres. Alors, pour ce qui est des traitements bloqueurs de puberté, ce qui a été montré, c'est que chez les très jeunes, chez lesquels on commence un traitement, qui sont des jeunes qui ont déjà fait une transition sociale et scolaire, etc., ce traitement a été mis en place par les Hollandais pour, soi-disant, réfléchir et maturer leurs décisions. On a vu que c'était absolument pas vrai, puisque quasiment aucun de ces jeunes ne va revenir sur son identité inversée. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une exploration de l'identité et des modes d'identité possibles, c'est l'enrégimentement avec tout ce qui a été mis en place au plan social, scolaire, familial, médical, etc. C'est un enrégimentement dans une identité dont on ne pourra plus décoller. Et de surcroît, pourquoi en fait, en réalité, ce traitement a été mis en place ? C'est parce que les médecins avaient déjà programmé que ça se passerait comme ça et qu'ils voulaient empêcher le développement de la sexuation pour permettre physiquement une transition plus facile. Donc, vous voyez, des choses qui sont quand même véritablement importantes. La deuxième chose qui est aussi importante, c'est que ces traitements des jeunes, ce traitement bloqueur inversé, puis puberté, puis hormones inversées après, c'est des traitements dont on a dit qu'ils étaient essentiels parce qu'ils permettaient à des adolescents d'être beaucoup mieux psychologiquement, de ne plus être déprimé, de ne plus se suicider, etc. Et il y a eu à la fois une légitimation par l'effacement de la problématique dépressive et suicidaire, légitimité telle que les médecins ont pu dire à certains parents, eh ben, si vous n'acceptez pas ce traitement pour vos enfants, eh ben, écoutez, peut-être que vous préférez un enfant mort à un enfant traité. Voilà. Quand des médecins disent ça, pour moi, ce n'est plus des médecins. Mais bon. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que ces traitements, actuellement, une étude de 2020 de Turban a montré que on a pris un groupe avec un recul important, un groupe qui avait été traité précocement et un groupe traité très tardivement. Donc, traité précocement par bloqueur de puberté et ceux qui n'ont pas du tout reçu de bloqueur de puberté qui sont traités bien après leur majorité, vers 18-20 ans, il n'y a pas de différence dans les deux groupes sur les idéations suicidaires de l'année dernière, la suicidalité de l'année dernière, la suicidalité de toute la vie. Il y a une petite différence sur les idéations suicidaires sur toute la vie dans le groupe traité tardivement, mais c'est un critère extraordinairement compliqué de compter des idéations suicidaires sur toute une vie. Et en tout cas, on peut se demander qu'est-ce que c'est des idéations suicidaires quand elles ne sont pas accompagnées d'une sursuicidalité. Donc, ce que je veux montrer là, c'est qu'il n'y a plus de légitimité médicale à ces traitements. Et pourtant, cette publication date de l'année dernière, plus d'un an, il n'y a eu aucune modification des pratiques médicales.
Voilà, donc je vais faire une petite pause musicale après ce témoignage assez effrayant, il faut bien le dire, de Nicole Antea. Et voilà, petite pause musicale avec « Après la neige » de Erel Besson. révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc, je vais terminer avec en vous parlant de Lucille Pétavin, qui est une essayiste historienne et qui a cofondé l'Institut Genre et Statistiques. Elle a écrit un livre très intéressant sur le coût de la virilité, 100 milliards d'euros par an. Rien que ça. Et elle interpelle les pouvoirs politiques en leur demandant, en leur disant que pour réduire l'insécurité, il faudrait déjà commencer par revoir l'éducation à la virilité. Et elle propose donc plusieurs 12 propositions dont je vais vous parler tout à l'heure. D'abord, je vais vous faire écouter l'interview qu'elle a donnée à un site qui s'appelle Les Nouvelles News. Je vous la fais écouter.
Lucille Pétavin a écrit « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes » aux éditions Anne Carrière. Comment avez-vous calculé le coût de la virilité ?
Alors, le coût de la virilité, c'est un essai que j'ai écrit en partant d'un constat, qui est que les hommes sont responsables de l'immense majorité des délits, des faits de criminalité, des comportements à risque, de tous les comportements asociaux dans notre société. Si bien que quand on regarde les chiffres officiels, on s'aperçoit que 83% des mis en cause par la justice sont des hommes, 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes, que la population carcérale est à 96% masculine. Et quand on regarde par type d'infraction, les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves, donc 86% des auteurs d'homicides, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 99% des auteurs de viols, etc., etc. Et donc je me suis dit que tout cela devait avoir un coût faramineux pour l'État, pour la société, chaque année. Et donc je me suis lancée dans ce calcul, donc le coût de la virilité, qui est un coût direct effectivement pour l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et un coût indirect qui est lui supporté par la société puisqu'il y a des victimes, donc des coûts humains en termes de souffrances physiques, psychologiques, de perte de productivité, etc., etc. Et donc en additionnant tous ces coûts, j'arrive à près de 100 milliards d'euros par an. Donc c'est tout à fait colossal. C'est équivalent à peu près au déficit annuel du budget général de la France avant le Covid. Mais c'est une somme qui est quand même sous-estimée. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin parce qu'il y a une difficulté à trouver des statistiques pour tous les types d'infractions, donc des statistiques ventilées par sexe. Et puis parce qu'il y a beaucoup d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale. Et là aussi, on ne peut pas les prendre en compte dans ce calcul.
L'éducation, la socialisation des hommes sont en cause ?
Alors effectivement, les hommes ne sont pas violents par nature. Il y a des femmes qui sont capables de violence et des hommes qui sont pacifiques et qui le resteront toute leur vie. Donc ce n'est pas une question de sexe. Et d'ailleurs, effectivement, la science aujourd'hui nous explique que les origines ne sont pas biologiques. Ce n'est pas la testostérone, puisque des niveaux de testostérone élevés chez un même individu peuvent être aussi bien liés à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormone augmente. Et puis, ce n'est pas non plus le cerveau, puisqu'on sait que lorsque l'on naît, on n'a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites. Les 90% se modèlent en fonction de nos apprentissages, en fonction de nos expériences. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc là non plus, le cerveau n'est pas à l'origine de nos comportements et des comportements agressifs des hommes. Et puis, il y a aussi les études de paléohistoire qui nous montrent que finalement, les rôles entre les hommes et les femmes étaient beaucoup plus égalitaires au temps des cavernes. Donc, il n'y a pas finalement une nature, un état de nature dans lequel les hommes chassaient pendant que les femmes restaient dans les grottes. Et donc, il n'y a pas de fatalité biologique ou sociale qui nous pousserait et qui pousserait les hommes à être des dominants. Par contre, effectivement, on s'aperçoit qu'avec les études de sociologie, les études qui ont étudier justement la façon dont on éduque encore aujourd'hui les garçons, eh bien, on les élève, on les éduque à travers cette notion de virilité, donc qui est finalement qu'on pourrait résumer par être le plus fort. Voilà, la virilité, c'est la puissance, c'est la force qui sert la domination de l'environnement, des autres, etc. Et donc, on éduque encore aujourd'hui les garçons de cette façon. Alors, on n'en a pas toujours conscience parce que ce sont des schémas à travers lesquels on a nous-mêmes été éduqués et que l'on transmet de façon pas toujours consciente. Mais effectivement, les études de sociologie nous montrent bien par quoi ça passe, par quel mécanisme ça passe. Et que effectivement, on éduque encore aujourd'hui les garçons à être les plus forts et on les acculture finalement à la violence.
Et tout ça, bien sûr, commence au berceau.
Effectivement, ça commence dès les premiers jours de la vie des enfants. On ne sociabilise pas un garçon comme on ne sociabilise une petite fille. Par exemple, avec les garçons, on va avoir des rapports beaucoup plus toniques, donc on va valoriser leur force physique. On va moins développer chez eux les sentiments, on va moins leur parler des sentiments. Par contre, on va beaucoup plus valoriser la colère que chez les filles. Également, on est beaucoup plus permissif avec les garçons, on les prévient moins du danger. Et puis, effectivement, cette question de la violence qui va passer par la culture, par les jouets. Parce que encore aujourd'hui, par exemple, dans les catalogues de jeux, quand il y a une arme, elle est tenue dans 90% des cas par un petit garçon. Alors ça fait de plus en plus débat, et tant mieux, mais aujourd'hui encore, c'est une réalité. Et puis effectivement, dans les livres, dans les films, l'immense majorité des héros qui vont s'adonner à une violence qui va être légitime, parfois tout simplement pour sauver le monde, eh bien on s'aperçoit que les garçons développent une appétence pour cette violence et une identification à ces personnages. Donc effectivement, on peut parler d'une éducation et d'une acculturation tout au long de la vie des garçons eh bien, à cette virilité et à ces comportements violents et ces comportements sociaux.
Votre livre est un succès dans les milieux féministes, mais est-ce que les hommes et les femmes de pouvoir s'en sont emparés ?
Alors effectivement, la première chose, j'ai été quand même agréablement surprise par la sortie déjà médiatique, puisqu'il y a eu une large couverture dans la presse. Donc finalement, l'accueil a été très positif de ce côté-là. Alors après, aujourd'hui, effectivement, le livre fait beaucoup parler et notamment, je suis invitée dans beaucoup de milieux à en parler. Ça va être des milieux d'entrepreneurs, de collectivités territoriales, d'associations féministes qui travaillent déjà sur ces questions, etc., etc. Et je m'aperçois quand même que le livre est très bien accueilli et envers des publics assez larges finalement. Aujourd'hui, les entreprises travaillent de plus en plus sur les sujets d'égalité et parfois sur des sujets qui dépassent un peu le cadre de l'entreprise, mais quand même, il y a un lien parce que la façon dont on sociabilise les hommes et ces rapports de domination, eh bien aujourd'hui, il y a des études qui nous montrent que dans les entreprises, les personnes qui sont dominantes vont créer une ambiance de travail néfaste et que ça a des répercussions négatives pour le bien-être au travail, mais aussi sur la rentabilité des entreprises. Et un management davantage humaniste, qui aujourd'hui est encore porté par les femmes, parce que les femmes sont davantage éduquées de cette façon, eh bien, est beaucoup plus positif pour l'entreprise qu'un management par la force et l'autorité.
Et dans la sphère politique, quelles sont les réactions ?
Alors, dans la sphère politique au plus haut niveau, je n'ai pas eu de réaction, bien que j'ai envoyé mon livre dans les cabinets ministériels, enfin toutes les personnes qui sont en charge de ces questions de sécurité intérieure et d'éducation. Par contre, aujourd'hui, je suis de plus en plus effectivement invitée, et puis il y a des gens qui viennent vers moi qui ont des responsabilités dans l'État, mais à un niveau peut-être un peu plus inférieur, enfin, en tout cas dans les territoires ou dans les villes, ou à ce niveau-là, ou alors dans des services de la justice, des personnes qui vont par exemple s'occuper des jeunes délinquants, ce genre de choses.
Quelle est la prochaine étape pour faire baisser le coût de la virilité ?
Alors, je ne sais pas si... je ne sais pas combien de temps ça prendra parce que j'ai déjà l'impression que la prise de conscience c'est la première étape et elle n'est déjà pas évidente. C'est-à-dire que quand je vais parler de mon livre, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de résistance encore sur ce sujet-là, notamment de la part des hommes. Et effectivement, quand on touche à l'éducation des garçons, à la virilité et finalement à la construction de l'identité des garçons et des hommes, c'est encore quelque chose qui est difficile, difficilement entendable. Donc je pense que la première chose, c'est effectivement la prise de conscience et j'espère que mon essai, à travers le coût économique, voilà, permettra aussi de prendre un peu plus conscience des effets néfastes de cette éducation à la virilité. Mais voilà, pour l'instant, on en est encore au début, je dirais.
Voilà. Donc, elle propose, elle a 12 propositions pour en finir avec l'insécurité et économiser 100 milliards d'euros par an. Donc voilà, elle vient de vous l'expliquer. Donc la violence est culturellement construite. La violence engendre des coûts humains et financiers colossaux. Et réduire la violence est un devoir. Comment mettre fin à la violence en 12 propositions ? D'abord, identifier les origines du problème. Pour cela, 3 propositions. Les statistiques produites par les services de l'État devraient faire figurer le sexe des auteurs, qui est la première caractéristique définissant le profil des délinquants et des criminels. Les politiques de prévention doivent s'appuyer sur des études prenant en compte le gouffre statistique entre les femmes et les hommes. Les recherches sociologiques portant sur les origines doivent en premier lieu travailler sur ce critère qui prédomine sur tous les autres. Ça va aussi avec la proposition numéro 12 où elle dit que ces statistiques sur la responsabilité femmes-hommes par infraction, budget, etc. devraient être transmises aux élus, aux responsables. Deuxièmement, enseigner ces études dans le parcours de formation des personnels de la justice, des forces de l'ordre et des hauts fonctionnaires. Troisièmement, dans les budgets relatifs à la sécurité intérieure, faire apparaître les différences de dépenses consacrées aux hommes et aux femmes. Ensuite, très important, la formation, l'éducation. Il faudrait pacifier l'éducation donnée aux garçons. Pour cela, elle a un ensemble de propositions. Donc, créer un organisme étatique de référence chargé de diffuser et de promouvoir une éducation plus humaniste aux enfants dans la sphère familiale, scolaire et culturelle, avoir des actions de terrain, etc. Une autre proposition, mettre en place des ateliers obligatoires sur la parentalité, ça me paraît intéressant, à partir du début du suivi de la grossesse, pour aborder avec les futurs parents les valeurs transmises à leurs enfants, l'éducation familiale sans violence, et les réfléchir autour des enjeux, autour de la paternité active. Ensuite, agir au niveau de la culture, donc apposer une signalétique sur les objets culturels, films, livres, dessins, animés, jouets, etc. et avertir de la promotion de valeurs ou de rôles modèles masculins agressifs, dominants et violents. Septième proposition, très importante, limiter fermement l'accès à la pornographie pour les moins de 18 ans et interdire dans la publicité la sexualisation du corps des femmes. Huitième proposition, milieu scolaire, éduquer les élèves de façon continue sur les questions de domination masculine, d'objectification sexuelle, sur le désir, la compétition entre hommes ou encore la dissimulation des vulnérabilités des garçons, etc. Neuvième proposition, mettre en place une formation continue sur l'égalité femmes-hommes et sur les schémas éducatifs à l'origine des violences auprès de tout le personnel éducatif. Formation aussi nécessaire pour les élus, l'ensemble des fonctionnaires. Donc voilà, créer des formations sur la déconstruction des stéréotypes qui sont source de la hiérarchisation des genres masculins féminins. Et promouvoir une masculinité qui soit saine. Voilà, et les dernières propositions, donc faire des campagnes de communication. Alors ça c'est intéressant, encourager les témoins de violences ou de comportements inappropriés à les signaler auprès des autorités compétentes dans l'espace public, dans les écoles, les entreprises, les services administratifs. Systématiser la diffusion des violentomètres dans le monde professionnel. Et les dernières propositions au niveau de la culture, développer des programmes de subvention qui sélectionneraient des projets culturels, sportifs, entrepreneuriaux, mettant en avant l'empathie plutôt que la compétition et l'égalité plutôt que la division. Et ça, je l'ai déjà dit, donc 12e proposition, fournir ces statistiques sur... je l'ai déjà dit. Donc je vais, l'émission se termine. J'ai juste une actualité importante à vous dire qui se passe à Marseille. Une initiative du collectif 13 droits des femmes et de la mairie du premier secteur de Marseille qui accueille et soutient une exposition d'œuvres d'artistes afghanes en exil. Donc c'est très important de ne pas oublier la situation des femmes en Afghanistan, donc un des pires pays actuellement pour les femmes ou naître dans le monde. Et donc, cette exposition, elle a lieu donc jusque, alors du, mince, je trouve plus les dates, mais vous avez encore le temps d'y aller. Ah voilà, ça a commencé le 28 avril, j'y étais à l'inauguration, et jusqu'au 11 mai, de 9h à 19h à la mairie du premier secteur. Donc c'est organisé donc, par le collectif 13 droits des femmes, par Femmes ici et ailleurs, qui est une association qui mène des actions culturelles, informatives et éducatives, pour promouvoir, voilà, l'égalité, ce dont je viens parler aussi, l'éducation contre le sexisme, etc. Et aussi le mouvement pour la paix et contre le terrorisme, qui a été une association qui a été créée en 2003. Donc cette exposition réunit les œuvres de 5 artistes photographes talentueuses qui ont été contraintes à l'exil depuis le coup de force des talibans. Il s'agit de Tamina Halizada, Roya Heydari, Fatima Hosseini, et Najiba Nouri et Tamina Salem. Donc ce sont des artistes afghanes renommés qui se sont exilés récemment et qui s'expriment sur leur situation, celle de leur pays. Situation donc, que vous devez connaître donc, depuis août 2021, suite au retrait des forces américaines, les talibans à nouveau au pouvoir ont balayé en quelques semaines les acquis des Afghanes et mutilé la culture. Le 23 mars dernier, jour de rentrée scolaire en Afghanistan, les talibans ont fait encore une fois la démonstration de leur haine des femmes et des filles en leur interdisant l'accès à l'éducation. Nous témoignons notre soutien indéfectible aux résistantes qui courageusement descendent dans la rue à Kaboul et dans d'autres villes du pays pour défendre leurs droits et libertés. Il y a aussi une association des céramistes et artistes de Lilith, donc le CAL, qui animera des ateliers autour du thème des femmes afghanes tout au long de la semaine. Donc je vous encourage vraiment à soutenir cette exposition qui ensuite fera le tour d'autres villes. Donc profitez-en pendant qu'elle est à Marseille. Je vous dis merci de votre soutien et à la semaine prochaine. Nous qui sommes impassés.